Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord.
Michel Roy, bonjour.
Bonjour Aïda.
Cette chronique habituelle sera enregistrée par téléphone vu notre situation actuelle. Nos studios sont fermés, on ne peut pas recevoir le public, mais la chronique aura lieu.
Voilà, et cette chronique sera consacrée aussi aujourd'hui à petite histoire des grandes épidémies. En effet, cette période de confinement depuis maintenant 5 semaines, qui est due à une épidémie de coronavirus, est un événement majeur, puisque cette épidémie sévit partout dans le monde. Elle a frappé environ 2,5 millions de personnes. Elle a fait à l'heure actuelle près de 170 000 morts de par le monde, dont un peu plus de 21 000 en France. Je cite là les chiffres de Santé publique France à la date du 21 avril. Pour la Dordogne, la Nouvelle-Aquitaine et la Dordogne sont relativement épargnées. Il n'y a à l'heure actuelle qu'une douzaine de décès en Dordogne. Donc cette épidémie de Covid-19, coronavirus maladie 2019, est une pandémie, car elle touche un très grand nombre de personnes. C'est une pandémie mondiale qui, en moins de 3 mois, s'est propagée de la Chine où elle est apparue pour toucher maintenant les 5 continents. Toute la gravité de la maladie est due non seulement à sa vitesse de propagation, mais aussi et surtout au fait qu'elle est causée par un virus jusque-là inconnu pour lequel on ne dispose à ce jour ni de traitement efficace ni de vaccin. Dans de telles conditions dramatiques, les autorités de la plupart des pays touchés n'ont eu d'autre solution que de recourir à ce qu'on a pu entendre appeler la méthode moyenâgeuse, ainsi s'exprimait un représentant syndical des jeunes médecins récemment. Méthode moyenâgeuse qui, dans un premier temps, a consisté à isoler les malades, c'est-à-dire à pratiquer une quarantaine, puis a conduit rapidement à l'isolement de chacun chez soi, de toute la population, qu'on appelle le confinement. Ces méthodes peuvent être qualifiées de moyenâgeuses puisqu'elles sont en effet héritées de la grande peste du XIVe siècle dont nous allons parler. Nous allons donc reprendre le fil de l'histoire pour parler des grandes épidémies. Il faut savoir que les maladies infectieuses ont toujours existé et que déjà du temps des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, on connaissait certaines maladies infectieuses puisqu'on retrouve par exemple sur les squelettes des hommes préhistoriques des cicatrices de processus infectieux comme la tuberculose osseuse. Mais la notion d'épidémie elle-même suppose une propagation d'un germe au sein d'une concentration de population. Les épidémies en tant que telles sont donc apparues seulement au néolithique pour 2 raisons principales. La première est que les hommes se sédentarisent, créant des groupes de population qui deviennent favorables à la dissémination de germes. Groupes qui ne sont pas très volumineux, on parlerait peut-être de cluster aujourd'hui dans notre épidémie. Deuxième raison, c'est que ces hommes du néolithique développent l'élevage, qui favorise ainsi la transmission des maladies depuis les animaux jusqu'à l'homme, soit par contact direct, c'est le cas par exemple de la tuberculose, soit par le biais de l'eau souillée, soit l'animal et l'homme utilisent le même point d'eau et l'animal le souille en venant boire, soit les points d'eau sont différents, mais en raison d'une proximité entre le puits utilisé par les hommes et les dépôts d'excréments des bêtes, il y a contamination des sources. C'est ce qui se passe par exemple dans le cas du typhus. Pendant des siècles, cependant, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, les processus de transmission microbienne de ces maladies infectieuses sont inconnus et on attribue alors la mort des troupeaux, mais aussi les épidémies humaines, soit à des phénomènes de sorcellerie, soit à la colère divine, ou encore on trouve des boucs émissaires. Ainsi, au Moyen Âge, les Juifs étaient accusés, en particulier en Espagne, de pourrir les puits. Nous allons donc citer les grandes épidémies connues et qui sont en fait connues depuis l'Antiquité. La première est dénommée peste d'Athènes et la sévit de 430 à 426 avant Jésus-Christ. Elle était contemporaine des guerres du Péloponnèse, c'est-à-dire les guerres entre Athènes et Sparte. Elle a fait de très nombreuses victimes, dont Périclès. Mais, bien que dénommée peste, il s'agissait d'une fièvre diarrhéique, donc plutôt une épidémie de typhus. On décrit ensuite la peste antonine, qui frappe l'Empire romain à la fin du IIe siècle de notre ère, et qui a été décrite en particulier par Galien, le grand médecin de l'Empire romain. Elle semble avoir fait environ 10 millions de victimes tout autour de la Méditerranée, en particulier l'empereur Marc Aurèle. Et là encore, il ne s'agissait pas vraiment d'une peste, c'était une fièvre éruptive, donc plutôt une épidémie de variole. La première peste réelle est la peste justinienne qui va toucher au 5e siècle de notre ère l'Empire romain d'Orient. Elle débute en 541, il s'agit bien d'une peste bubonique qui infecte les ganglions, mais aussi les poumons et le sang. Elle est supposée avoir fait 25 millions de victimes entre le Moyen-Orient et l'Europe. En France, elle est arrivée par Marseille. Elle s'est propagée ensuite à toute la vallée du Rhône, puis a touché Clermont, l'Alsace et Paris. Grégoire de Tours en rapporte les conséquences dans ses Chroniques de la Gaule. Nous en venons maintenant au Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge est marqué par la grande peste du XIVe siècle qui va devenir le symbole de la grande épidémie. Cette grande peste, qui est une peste bubonique là encore, commence en 1347 et va continuer jusqu'en 1352. Elle va ravager tout le pourtour de la Méditerranée mais aussi une partie de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Europe. Elle semble avoir fait au total 75 millions de victimes, dont 25 millions en Europe. Et on estime que entre 30 et 50% de la population européenne aurait disparu au XIVe siècle du fait de cette épidémie. Il s'agissait donc d'une peste bubonique touchant les ganglions et on l'a appelée peste noire en raison de la couleur de ces ganglions qui devenaient très foncés. On a découvert aussi que les vecteurs de cette épidémie de peste étaient le rat et les puces. Et il est intéressant de rapporter un petit peu comment elle s'est propagée. La peste du XIVe siècle a commencé, semble-t-il, en Mongolie. Ensuite, petit à petit, elle s'est disséminée en suivant les routes de la soie. Et on connaît en 1346 un épisode qui est le siège de Kaffa en Crimée par les Tatars. L'armée des Tatars a été touchée par la peste et on raconte qu'ils auraient catapulté des cadavres de soldats pestiférés sur la ville pour contaminer les assiégés. En tout cas, l'épidémie s'est répandue localement, mais un navire de marchands génois qui était dans le port a réussi à partir avec sa cargaison, mais aussi avec quelques passagers clandestins, entre guillemets, les rats. Et ce bateau génois a commencé son équipée habituelle autour de la Méditerranée. L'équipage a été touché, mais également à chaque escale du navire, dans les ports d'attache, l'épidémie s'est propagée. Elle s'est ainsi propagée à Bagdad, à Constantinople, à Chypre, à Alexandrie, en Sicile, à Tunis, en Italie, puis à Marseille, puis en Espagne, Barcelone, Almeria. À ce sujet, on remarque que c'est la deuxième fois que je parle de Marseille, mais toutes les épidémies de peste sont arrivées en France par Marseille. Et Marseille a été de longue date une ville dans laquelle il y avait des médecins spécialisés dans les maladies infectieuses et tropicales. En tout cas, cette grande peste du XIVe siècle, non seulement est le symbole de la maladie épidémique, de la grande pandémie, mais c'est considéré aussi comme l'une des causes de la disparition de l'Empire byzantin et on sait que la chute de Constantinople marque la fin du Moyen-Âge. Alors, à la Renaissance, qu'en est-il ? Il y a eu des résurgences d'épidémies de peste, surtout le bassin méditerranéen, mais aucune aussi violente que la grande peste du XIVe. Par contre, le fait marquant sur le plan épidémiologique à la Renaissance, c'est la disparition des populations autochtones d'Amérique, qui, plus que due à la barbarie des conquistadors, a été due essentiellement à l'importation par ces derniers de germes contre lesquels les Amérindiens n'étaient pas immunisés, essentiellement les germes de la rougeole et de la variole. Juste retour des choses, pourrait-on dire, les navigateurs espagnols ont ramené d'Amérique la syphilis, qui n'a jamais donné de grandes épidémies, mais qui va sévir de façon endémique en Europe du XVIe siècle jusqu'au début du XXe, ou presque au milieu du XXe, c'est-à-dire jusqu'à la découverte de la pénicilline. La période des temps modernes n'a pas connu de très grandes épidémies. Il y a eu plusieurs retours de la peste, des épidémies de variole, de typhus, mais aucune très grande épidémie. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir à nouveau une grande pandémie qui a été une pandémie de choléra qui a connu plusieurs épisodes, qui a touché le monde entier. Le choléra est une fièvre avec diarrhée qui tue par déshydratation et qui est connue depuis 1503, première description par un officier médecin de Vasco de Gama. L'épidémie du XIXe siècle est partie de l'Inde et s'est propagée grâce à la fois au transport maritime, mais aussi au sein des continents grâce au chemin de fer qui venait d'être inventé. En France, c'est en 1832 que l'épidémie a été la plus violente. Elle aurait fait environ 100 000 morts en France, dont le chef du gouvernement, Casimir Perier. Mais cette épidémie de 1832 a permis aussi l'embryon de la réanimation, puisque c'est un chirurgien écossais nommé Thomas Latta, chirurgien d'Édimbourg, qui a réalisé les premières perfusions en transvasant de l'eau salée dans le sang des patients au moyen d'une plume d'oie piquée dans la veine du coude. Nous en arrivons au XXe siècle, et le XXe siècle, dans son début, a été marqué par la grande épidémie de grippe espagnole, qui est apparue en 1918-1919, et dont il faut savoir qu'elle a tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale. Il s'agissait d'une grippe, d'un virus grippal classique, une épidémie qui a débuté en Extrême-Orient et qui s'est propagée sur tout le globe. Elle semble avoir fait environ 50 millions de victimes à l'échelle du monde. Alors pourquoi l'appeler grippe espagnole ? Eh bien parce que c'est en Espagne qu'elle a été abondamment décrite à son début. L'Espagne était alors neutre, alors que tous les autres pays européens et la presse de ces pays européens étaient plus préoccupés par la guerre que par l'épidémie. On oublie aussi deux autres épidémies de grippe plus proches de nous. La grippe dite asiatique de 1957, qui a fait 2 millions de victimes dans le monde et 100 000 en France quand même. Et en 1969, la grippe dite de Hong Kong, qui a fait 1 million de victimes dans le monde et 31 000 en France. Pendant le XXe siècle, il y a eu aussi la tuberculose qui a beaucoup sévi dans les années 20, 30, 40, la poliomyélite qui a beaucoup touché d'enfants après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la découverte d'un vaccin efficace, les résurgences de la variole qui, jusqu'à il y a une trentaine d'années, a fait de très nombreuses victimes en Asie, alors que le vaccin contre la variole est connu et a été découvert par Jenner à la fin du XVIIIe siècle. Donc on a passé près de 200 ans sans arriver à vacciner tout le monde. Plus tard, dans les années 1980-90, il y a eu la grande épidémie de sida. Mais le sida, on en parle moins maintenant, puisqu'on a découvert des médicaments actifs, les antirétroviraux. plus près de nous. Il y a eu l'épisode de la grippe H1N1 en 2009 et le SRAS. Encore deux épidémies venues de Chine, mais qui ont été beaucoup moins, qui se sont beaucoup moins propagées que le Covid. Et quand le SRAS lui-même est resté limité à l'Asie. Citons aussi l'épidémie d'Ebola en Afrique, qui fort heureusement ne se dissémine pas trop, car c'est une maladie qui tue extrêmement rapidement et de très nombreuses personnes. Mais ce qu'ont en commun toutes ces maladies et toutes ces grandes épidémies du XXe siècle, c'est que pour la plupart, on a découvert des médicaments actifs, qu'il s'agisse des antibiotiques ou des antiviraux, ou bien qu'on a mis au point des vaccins qui ont permis, pour les médicaments, les antibiotiques, de guérir les maladies, ou pour les vaccins, de les prévenir et de les contenir. Donc, jusqu'à la fin de l'année dernière, nous vivions dans une sorte d'illusion, l'illusion de l'omnipotence de la médecine, du moins en matière d'infectiologie. Et d'un coup, nous est tombé dessus il y a 4 mois une épidémie qui se propage, pour laquelle à l'heure actuelle, et malgré tout ce qui a pu être affirmé, on n'a aucun médicament qui ait prouvé son efficacité. On espère trouver un virus si l'immunité qui se développe chez les personnes atteintes est suffisante, non pas un virus, mais un vaccin. Si l'immunité est suffisante, mais il faudra du temps pour élaborer ce vaccin et surtout qu'il soit diffusable. Alors, quels enseignements tirer de cette grande pandémie ? Le premier, c'est de ne pas céder à la grande peur qui réapparaît avec maintenant les moyens modernes de communication et tout le cortège de fake news relayé par les réseaux sociaux où une fausse information devient virale et se propage encore plus vite que l'épidémie, surtout si elle est, semble-t-il, soutenue par un ancien prix Nobel. Par ailleurs, en France, tout ça me paraît être amplifié par un certain goût de la polémique qui fait que chaque Français a un avis bien tranché sur des débats scientifiques dans lesquels les scientifiques, eux, n'ont pas encore d'éléments pour avoir des avis. Par ailleurs, il ne faut pas non plus tomber dans un travers consistant à trouver des boucs émissaires comme lors de toutes les grandes épidémies. Ainsi, la fièvre napolitaine des Français au XVIe siècle, la syphilis, était appelée par les Italiens le mal des Français. Ironie du sort, on s'en protégeait avec une capote dite anglaise. Par la suite, au moment de la grippe espagnole, en 1919, en France, on a dit que c'était les Boches qui l'avaient propagée. Rappelons-nous aussi le sida. Le sida, on a d'abord dit que c'était les Haïtiens, ensuite les homosexuels, ensuite les drogués. Et pour le Covid-19, très récemment, on a vu accuser pêle-mêle les Chinois, les évangélistes, les enfants parce qu'ils sont porteurs sains, l'infirmière qui habite sur le palier, qui a peut-être été contaminée, et que dire des vieux qu'il faut confiner jusqu'à Noël. Mais cette fois-ci, le responsable, c'est pas un bouc, mais c'est un curieux animal qui tient, quand on le voit, ça semble tenir à la fois du Loir et du Tatou, qui porte un joli nom, c'est le pangolin, et ce brave pangolin s'associe avec la chauve-souris pour nous inonder de virus. La triste réalité nous montre aussi la réapparition de corbeaux, lesquels demandent anonymement à l'infirmière du dessus de déménager, ou bien appellent la police pour signaler que le voisin d'à côté promène son chien vraiment plus que de raison. Un autre travers bien français, c'est d'accuser les politiques de n'avoir rien prévu. Mais il y a 10 ans, rappelons-nous, la ministre qui avait tout prévu était accusée d'en faire trop et de trop dépenser. Que dire de ceux qui nous affirment que la nature se venge ? Les adeptes de ce que la philosophe Catherine Kinzer appelle le culte du chagrin. Ainsi, la nouvelle malédiction du XXIe siècle n'est plus divine, elle n'est plus religieuse, elle nous est jetée par la nature que nous avons bafouée. Veillons seulement à ne pas retomber dans le chamanisme. Alors, quelle attitude adopter ? Eh bien, je crois qu'il faut avant tout garder raison, qu'il faut faire preuve de citoyenneté et de solidarité, c'est-à-dire se montrer responsable face à cette maladie et aux précautions qu'elle nous impose encore pour l'instant. Chers auditeurs de RLP, je vais vous dire au revoir. Restez chez vous pour le moment, sortez le moins possible, sortez masqué, mais la tête haute.
Je remercie Michel Roy pour cette superbe chronique de nous rappeler le fait de l'histoire et bien sûr les réflexions sur la situation qu'on vit actuellement. Je rappelle nos auditeurs, cette chronique était enregistrée par téléphone et je pense qu'on va continuer à travailler comme ça pendant un petit moment encore.
Voilà, on va essayer.
Merci.
Merci Aïda.